Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Sujet sensible s'il en est, l'accueil des réfugiés sur le sol européen est abordé dans un court-métrage français tourné en Provence, dans les vignes des Côtes-du-Rhône. Après des mois d'un périple difficile, un jeune informaticien syrien se retrouve perdu dans une ville du sud-est de la France où ses contacts, syriens eux aussi, lui ferment leurs portes. Le film Souris met à l'écran un jeune acteur syrien face à un rude vigneron qui a lui-même vécu au Liban. Le photographe franco-syrien Alain Homsi, qui en a assuré le montage, nous en dit plus sur cette aventure peu banale. Des groupes armés islamistes résiduels toujours en activité en Algérie, l'armée annonce avoir tué cette semaine l'émir qui dirigeait l'antenne algérienne de Daesh. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Alain Homsi, bonjour.
Bonjour.
Photographe syrien installé en France depuis une vingtaine d'années. Orient Hebdo avait eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois pour parler d'une exposition de photos, souvenirs de Syrie. Alors cette fois, nous parlons cinéma avec ce court-métrage « Souris », S-O-U-R-Y, que vous venez de monter et qui se déroule en Provence, dans le sud-est de la France. Que raconte-t-il, ce film ?
Alors, souris, c'est souri en arabe, en syrien. Ça veut dire syrien, en fait. Donc, c'est l'histoire d'amitié, d'humanité, de solidarité entre un vigneron français du sud de la France et un réfugié syrien. En fait, le film suit le parcours d'Ouassim. C'est l'histoire d'Ouassim qui est donc un réfugié qui est arrivé illégalement en France, qui a été débarqué par un passeur malhonnête en plein milieu de la campagne provençale et qui cherche en fait à rejoindre un compatriote à lui, à Avignon. Mais en fait, voilà, il est perdu dans la campagne, il ne parle pas un mot de français. Et là, c'est le miracle, il va rencontrer un vigneron qui, lui, parle arabe.
Alors justement, c'est un film français avec un metteur en scène français. Et pourtant, c'est un film qui est entièrement tourné en arabe. Pourquoi ?
Alors, il y a l'idée, c'est que ce Souris, en fait, c'est un film français, mais qui présente en fait le réfugié de son point de vue. Donc c'est un réfugié qui débarque, qui ne parle pas un mot de français. Et donc l'idée, c'est de le montrer dans cet environnement, montrer un peu le miracle de la langue, raconter donc l'histoire de son propre point de vue. C'est un réalisateur français qui a écrit ce film, mais les dialogues ont été traduits en arabe par donc l'acteur principal qui joue le rôle de Wassim. Il a apporté en fait ces expressions syriennes qui rappellent un petit peu les séries télévisées syriennes humoristiques. Donc il y a tout cet enjeu de la langue et le fait aussi que Bob s'exprime en arabe.
Bon, Bob le vigneron, c'est incroyable. Par quel miracle un vigneron de la région de Baume de Venise, puisque c'est cela, hein, pas très loin d'Orange, dans le sud-est de la France, parlerait arabe ?
Alors, Yves Morard, qui joue en fait son propre rôle, puisqu'il est vigneron dans la vie comme dans le film, a appris l'arabe au Liban. En fait, il a travaillé 25 ans dans la plaine de Beka, où il a travaillé dans les vignes. Il avait donc participé à la création de caves prestigieuses comme Kefreya, comme Clos Saint-Thomas.
Le Clos Saint-Thomas, oui, c'est ça, qui est assez connu au Liban.
Tout à fait. Donc, il a appris l'arabe en fait en travaillant dans les vignes. D'ailleurs, il le dit aussi dans le film, donc quand il s'adresse en fait à Wassim, il me dit voilà, tu apprendras le français comme moi j'ai appris l'arabe en travaillant. Donc il a appris l'arabe pour pouvoir communiquer avec ses ouvriers libanais. Il est resté au Liban malgré la guerre, il a fait du vin sous les bombes comme il le dit, et après il est revenu en France en 2001 pour donc créer son propre domaine, donc le Clos des Patries, avec son fils.
Alors donc Bob le vigneron français parle arabe, mais c'est un amateur, en quelque sorte, en tant qu'acteur. En revanche, Wassim, lui, c'est un acteur professionnel. Il était acteur lorsqu'il était en Syrie, avant de venir en Europe.
Tout à fait. Donc Wassim Majid était acteur professionnel en Syrie. Il avait travaillé donc pendant plusieurs années à la télévision syrienne. Il a tourné dans des séries. Il a également présenté donc un programme qui s'appelle Bonjour la Syrie. Et puis en 2011, il a quitté la Syrie au tout début des événements tragiques, justement parce qu'il ne souhaitait pas prendre les armes, s'engager. Il n'avait pas le choix en fait. S'il était resté là, il serait forcément pris dans l'armée, et donc il a voulu quitter. Donc il est parti s'installer à Dubaï, où il a travaillé donc pour une chaîne donc arabophone, ou donc NBC, et il a tourné dans des séries. Il a participé également dans des longs et courts métrages.
Et comment a-t-il débarqué en France? Par quel miracle là aussi?
Alors il est arrivé en France. Il y avait l'idée de s'installer à Paris, capitale de la création en Europe. Donc il est pas venu en tant que réfugié, contrairement donc c'est pas tout à fait une histoire personnelle de Wassim. Il est venu en tant qu'artiste, donc sur le fait qu'il travaillait, enfin il y avait déjà un projet de travail sur une pièce de théâtre, mais aussi sur un film, et donc c'est comme ça qu'il est venu en France en tant qu'artiste.
Mais vous-même qui montez ce court-métrage en ce moment, vous avez une expérience de l'immigration, puisque vous avez visité en France un certain nombre de camps, notamment je crois dans la région de Cergy-Pontoise, près de Paris, et aussi près de Calais.
Tout à fait. Alors voilà, le propre hasard en fait de ce projet, c'est que lorsqu'on m'a proposé de faire le montage de ce film, je venais juste de rentrer de camp des réfugiés de Calais et Dunkerque, où je suis parti faire des reportages dans les camps des réfugiés, où j'ai rencontré également des réfugiés syriens. Et ces rencontres m'ont vraiment, on va dire, bouleversé, parce que je me souviens avoir rencontré, par exemple, un jeune Syrien qui venait du même quartier que moi, à Damas. Et souvent, je me suis dit, peut-être si moi j'étais resté en Syrie, je serais peut-être aujourd'hui, j'aurais fait partie de ces milliers de réfugiés qui traversent ces routes de l'exil, qui font le voyage de la mort, simplement pour survivre, pour faire venir aussi leur famille et les faire échapper en fait de l'enfer de la guerre. C'est à ce moment-là, on m'a proposé de travailler sur le montage du film, donc j'ai forcément accepté après avoir lu le scénario, bien sûr. Et ce qui m'a touché dans ce film aussi, c'est le message en fait d'humanité, parce que pour moi, ça représente un hommage au courage de ces réfugiés, mais également c'est aussi un message donc d'espoir pour eux aussi, et un hommage également à la solidarité de Français, d'Européens, de tous ces gens qui acceptent d'aider des réfugiés, qui acceptent de les accueillir chez eux. Donc pour moi, je me suis dit, voilà, ce film pourrait aussi donner le bon exemple. Donc j'ai travaillé pendant 3 semaines donc sur le montage du film, et le défi c'était voilà de tirer le maximum des images, du travail des acteurs, des techniciens, donner au film aussi le bon rythme, avec aussi cette contrainte de la langue, puisque le réalisateur qui était présent à mon côté, Christophe Sulzer, ne parlait pas arabe. Il avait fait entière confiance également au moment du tournage à Wassim et à Bob, qui s'exprimaient en arabe, donc quasiment tout le film est en arabe. Et au montage, il fallait aussi continuer en fait ce travail, donc le fait que moi je suis franco-syrien, que je m'exprime en arabe, de faire tout le travail de montage avec les dialogues, parce qu'il y a eu aussi un peu d'improvisation forcément sur le tournage, donc il fallait pas aussi que ça influe sur le rythme du film. Il y avait aussi les expressions typiquement syriennes que Wassim avait rajoutées dans le texte, qui n'existaient pas forcément bien sûr dans le scénario, puisqu'il était écrit en français. Donc voilà, et c'était vraiment ce défi-là, et puis évidemment aussi le travail de Bob, puisque en fait Bob c'est un Français, mais qui dans le film s'exprime en arabe libanais, qui n'avait pas pratiqué depuis quasiment aussi pratiquement 20 ans. Donc là aussi il y avait un travail linguistique à faire, et Wassim a joué un rôle important là-dessus.
Cette histoire vous paraît emblématique? Est-ce qu'elle est est-ce que elle est caractéristique de ce qui peut se passer en France, alors qu'on a l'impression que l'immigration est quelque chose de ressenti, de mal ressenti en quelque sorte? Là, on a une situation d'espoir tout à fait incroyable.
Tout à fait, tout à fait. En fait, l'histoire des réfugiés, l'enjeu, tout c'est médiatisation qu'on a eue, parfois il y avait des moments où il y avait un enthousiasme, après c'est tombé un petit peu dans l'oubli, après ça revient, après il y a des idées négatives qui surgissent ici et là, comme quoi les réfugiés peuvent présenter une menace. Le film essaie de dissiper justement beaucoup de ces préjugés, beaucoup d'idées reçues sur les réfugiés. Par exemple, Wassim, c'est un intellectuel dans le film. C'est pas quelqu'un qui aurait quitté son pays comme ça, mais c'est vraiment la guerre qui l'a poussé. C'est un ingénieur informatique qui avait une vie ordinaire en Syrie et qui est venu. Et dans le film, il y a ce rôle positif puisqu'il aide Bob à réparer son ordinateur. On sait que maintenant, il y a aussi des médecins syriens qui sont venus en France parce qu'il y a besoin. Également, et qui joue un rôle positif. Donc c'est joué aussi sur ce point positif, et des histoires comme celle de Wassim et Bob, certainement il y en a des milliers aussi.
Merci Alain Homsi, photographe, vous venez d'achever le montage de ce court-métrage de fiction « Souris » avec un Y.
Merci à vous.
En Algérie, le ministère de la Défense a annoncé jeudi la mort du chef de l'antenne algérienne de l'État islamique, le groupe Jun al-Khalifa, lors d'une opération de l'armée. Abu Jujana, l'émir du groupe, a été tué lors d'une embuscade tendue sur la commune de Wedzehour, près de la ville de Skikda, dans le nord-est du pays. Selon Nedjib Sidi Moussa, chercheur spécialiste de l'Algérie, cela montre que l'islamisme radical n'a pas encore été éradiqué dans le pays.
On est loin de la situation des années 90. Il y a une politique de concorde civile qui a été menée par Abdelaziz Bouteflika, qui a eu quand même des conséquences assez importantes. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des terroristes en activité et des réseaux qui se maintiennent et des réseaux de soutien dans la population. Il suffit de lire la presse et on se rend compte qu'assez régulièrement, des réseaux de soutien sont démantelés. Ça veut dire que la question n'est pas complètement réglée sur le plan sécuritaire. Et il y a aussi un contexte régional qui peut aussi inquiéter de ce point de vue-là.
Le groupe qui a été démantelé le 13 octobre, apparemment c'est le groupe qui avait revendiqué la mort d'Hervé Gourdel il y a 2 ans. Est-ce à dire que l'armée est toujours à l'affût de ces moindres combattants résiduels, comme vous dites ?
Bien sûr. C'est donc même la fonction première de l'armée, donc qui n'a pas à gérer le maintien de l'ordre et à contrer éventuellement des mouvements de protestation civile, mais elle est au premier poste de la lutte contre le terrorisme. Il y a des opérations de ratissage et de démantèlement de réseaux qui sont continues. Alors encore une fois, on n'a pas accès à toutes les informations de fait, mais c'est quelque chose qui est permanent.
Nedjib Sidi Moussa, politologue à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Alexandre, c'est la tension entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui domine la presse panarabe et les journaux du Caire et de Riyad.
Oui, et signe de cette tension, la suspension par l'Arabie Saoudite de la livraison de 700 000 tonnes de carburant à l'Égypte après le vote du Caire en faveur d'un projet de résolution russe au Conseil de sécurité sur la Syrie. Alors la presse égyptienne accorde une large place aux déclarations du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, selon lequel la suspension des livraisons de carburant n'est pas liée au vote aux Nations Unies. Il parle de tentative de semer la zizanie entre l'Égypte et le Golfe, mais souligne toutefois que l'Égypte n'accepte pas les pressions. La presse panarabe indique pour sa part que des contacts sont en cours entre le Caire et Riyad pour détendre l'atmosphère. Cela n'empêche pas des commentateurs au Caire et à Riyad de dresser une liste des divergences entre l'Égypte et l'Arabie sur la Syrie, mais aussi sur les causes de l'extrémisme islamiste ainsi que les organisations terroristes. Et puis il y a les îles de mer Rouge et la force de défense commune arabe.
Christian, les médias israéliens sont eux très remontés contre un vote à l'UNESCO concernant Jérusalem.
Tout à fait. Dans tous les journaux, l'heure est à l'indignation et à la colère après le vote de deux résolutions présentées par des pays arabes qui, selon Israël, nient tout lien historique du peuple juif avec Jérusalem et le mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, alors que pour les musulmans, il s'agit de l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint d'islam. Ces résolutions doivent être présentées mardi prochain pour être adoptées définitivement par l'UNESCO. En attendant, le quotidien Yediot Ahronot s'en prend surtout à l'abstention des pays européens, dont la France, qui aurait asséné, je cite, un coup de poignard dans le dos du peuple juif et par la même occasion sacrifier leur propre religion chrétienne ainsi que leur identité culturelle. Benjamin Netanyahu est lui aussi monté au créneau en proclamant que l'UNESCO avait, je cite, perdu le peu de légitimité qui lui restait. Les médias ont également noté pour le déplorer les commentaires enthousiastes des Palestiniens à propos de ces votes.
Christian, qu'ont retenu les commentateurs de l'attentat de Jérusalem qui a, rappelons-le, coûté la vie à deux Israéliens cette semaine ?
Ils se sont surtout interrogés sur l'utilisation par l'auteur de l'attaque, un Palestinien de Jérusalem, d'une arme automatique de type M16 de l'armée israélienne. Pour les médias, il s'agit de savoir si on est passé à une nouvelle phase des violences avec le recours à des armes à feu, comme pendant la deuxième intifada. Depuis le début de la vague de violence actuelle, en octobre dernier, les attentats anti-israéliens étaient surtout commis avec des couteaux ou des voitures béliers. Le possible passage à une forme de lutte armée inquiète au plus haut point. Pour éviter un tel scénario, les militaires et les services de sécurité ont lancé une vaste opération contre les ateliers de production d'armes artisanales en Cisjordanie, dont une dizaine ont été démantelées. Mais la grande inconnue porte sur l'attitude des policiers de l'autorité palestinienne. En l'an 2000, certains d'entre eux avaient tiré vers des soldats israéliens, ce qui n'est pas encore arrivé, du moins pour le moment.
En Égypte, Alexandre, la pénurie de sucre suscite nombre d'articles et de commentaires dans la presse égyptienne, mais aussi panarabe.
Oui, le sucre amer, c'est ainsi que l'on peut résumer les titres de la presse égyptienne qui rapportent les attroupements, parfois même les violences que provoque cette pénurie qui a commencé au début du mois et qui vient d'atteindre son summum avec un sucre absent pratiquement de tous les supermarchés. Alors, deux causes à cette pénurie, selon les journaux, la rareté de devises étrangères pour l'importation du fait de la dévaluation de la livre égyptienne, mais aussi les manœuvres des importateurs qui ont cessé de fournir le marché local en attendant de voir jusqu'où ira la dévaluation de la livre. Une situation préoccupante pour le régime du président Sissi qui négocie pour avoir un prêt auprès du FMI, selon la presse panarabe. Il faut préciser que les Égyptiens sont parmi les champions du monde de consommation de sucre, avec 35 kilos par an et par habitant.
Puis Alexandre, parlons un instant d'Hollywood, puisque selon le journal Al-Quds Al-Arabi, il n'y aurait jamais eu autant de films arabes en compétition pour l'Oscar du film étranger.
Oui, le journal indique que parmi les 85 films étrangers en compétition pour la 89e édition des Oscars, il y a 10 films arabes. Pour la première fois, il y a un film yéménite de Khadija Al-Salami, Najoud, 10 ans et divorcé, sur le mariage forcé des fillettes au Yémen. Il y a aussi le film libanais de Mirjan Boucheria, Beaucoup et grand, racontant l'histoire de frères trafiquants de drogue. Il y a le film égyptien de Mohamed Diab, Clash, sur des Égyptiens de différents horizons politiques arrêtés lors du soulèvement contre l'ex-président Moubarak en 2011. Alors Diab avait déjà participé aux Oscars en 2013 avec son film 678, qui se passe dans un bus Kaïrot. Les autres pays arabes représentés sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et l'Arabie Saoudite.
Et puis Christian, les médias israéliens notent ou s'inquiètent de la montée en force de la religion au sein de la police et aussi de l'armée.
Effectivement, deux quotidiens ont consacré une large place à ce dossier. Le Haaretz, un journal de gauche laïque, a fait sa une sur la présence de plus en plus visible de synagogues dans les commissariats où de nombreux rabbins viennent donner des cours et participer à des prières. Cette influence croissante se manifeste aussi par le refus de nombreux policiers de travailler durant le Shabbat, le sacro-saint repos hebdomadaire juif, ce qui pose bien sûr de sérieux problèmes de gestion des effectifs. Le Yediot Ahronot montre pour sa part en épingle la nomination d'un rabbin en chef de la police, Rami Ben Rayaou, qui affirme qu'il ne faut pas permettre à des policières de travailler seules avec un collègue masculin. Plus inquiétant, ce même rabbin a écrit un livre dans lequel il appelait les forces de l'ordre à la désobéissance en cas d'évacuation de force de colonies en Cisjordanie occupée.
Merci Christian, merci Alexandre. À la réalisation, Boris Vichit. Pour écouter Orient Hebdo, rendez-vous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.